France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Albert Speer, portrait d'un nazi qui se voulait présentable, voire idéal. Le 1er octobre 1946, cet individu, architecte de son état, échappe à la mort. Mais que les juges de Nuremberg ont-ils vu en lui pour ne pas lui infliger la même peine qu'à 11 de ses compagnons, hauts dignitaires nazis condamnés à mort par pendaison? Eh bien, disons que Speer, devenu l'un des personnages les plus importants du Troisième Reich, s'est faufilé. Oui, intelligent, courtois, repentant, il a séduit les juges occidentaux avec une défense à droite. Vous comprenez, il n'est qu'un artiste broyé par la machine, technocrate scrupuleux qui a avancé avec des œillères parce qu'il ignorait les crimes horribles commis par son propre gouvernement. Donc, Speer vivra. Et jusqu'à sa mort, il façonnera et marchandera sa mémoire. Lui, le dernier intime d'Hitler, le bon nazi qui se répand dans les médias et œuvre en secret pour combattre les fantômes du passé. Pourtant, avec sa façon de ne pas y toucher, il fut tout aussi criminel que toute la clique entourant Hitler. Il fut même un esclavagiste en chef du régime nazi. Notre invité aujourd'hui est Johann Chapoutot, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Sorbonne, auteur d'une œuvre importante sur l'histoire culturelle du nazisme. Il a publié notamment une somme considérable avec ses collègues Christian Ingrao et Nicolas Patin, Le monde nazi chez Talendier en 2024 et plus récemment Les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir chez Gallimard. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
23 avril 1945, Albert Speer entreprend un voyage au risque inconsidéré et encore incompris aujourd'hui. Quittant Hambourg, où il a retrouvé refuge, le ministre de l'armement d'Adolf Hitler, qui soit dit en passant à ce stade d'anéantissement du Troisième Reich, il n'est plus ministre de grand-chose, part pour Berlin. Durant le vol qui le ramène dans la capitale allemande, il rumine les événements de ces dernières semaines. Lui, et lui seul, a osé désobéir à Hitler. Il a tout fait pour entraver sa politique de la terre brûlée. Il se trouve que dans un dernier souffle destructeur, le Führer en effet a imposé à son armée de dynamiter les ponts, de saboter les usines, que les alliés et l'armée rouge ne trouvent qu'un désert sur leur chemin. « Si nous avons perdu la guerre, alors le peuple allemand est perdu aussi », affirme-t-il, glacial, devant le regard médusé d'Albert Speer. Ce jour-là, le 19 mars, Hitler publiait son décret Néron, sans égard pour les arguments de son ministre. Speer lui fêtait ses 40 ans et repartait avec un portrait dédicacé de son maître, mais sans son estime. Un mois plus tard donc, le 23 avril, Speer atterrit à proximité d'un Berlin sous les bombes. Il rejoint impérieusement l'immense palais de la chancellerie qu'il a lui-même dessiné 7 ans plus tôt. À l'époque, l'architecte Speer et le mécène Hitler rêvaient de construire des monuments dont il subsisterait d'impressionnants vestiges. Germania, capitale d'un Reich qui devait devenir Milan. Sauf que la chancellerie, le seul bâtiment d'ampleur qu'ils ont achevé, est déjà en ruine. Milan trop tôt, donc. Sous l'édifice se trouve le Führerbunker, où sont réfugiés Hitler, sa maîtresse Eva Braun et quelques irréductibles prêts à mourir avec leur guide, dont l'exalté Goebbels. Mais personne n'attendait le retour du docteur Speer, et certainement pas Adolf Hitler lui-même. La scène de leur dernière conversation est reconstituée ici, dans le film La Chute d'Olivier Hirschbiegel.
Épargnez au moins le peuple, mon Führer. Je ne verserai aucune larme sur le sort du peuple allemand. S'il se révélait incapable de survivre à cette épreuve, il n'aurait que ce qu'il mérite. Car voyez-vous, il s'est choisi son destin en connaissance de cause, et tant pis s'il n'en réchappe pas.
Il y a des mois, je me dois de vous le dire, mon Führer. Il y a des mois que je n'obéis plus à vos ordres ni à vos consignes. Il existe des documents qui prouvent que non seulement je ne tiens pas compte de vos ordres, mais encore j'y contreviens régulièrement. Je tenais à vous le dire. C'est pour ça que je suis là. Mais ma loyauté envers vous n'en a jamais été altérée, croyez-moi.
Vous ne voyez pas, mais le visage de Bruno Ganz, l'acteur qui joue Hitler, est mouillé de quelques larmes. Cette séquence s'appuie sur différents passages des mémoires d'Albert Speer, qui relate ses dernières conversations avec son maître. Celles-ci sont authentifiées par l'historien allemand Joachim Fest, qui a aidé Speer à rédiger ses mémoires. Et pourtant, ces fameuses larmes des Führers constituent un nœud dans la légende d'Albert Speer. Le Führer a-t-il vraiment pleuré ? Speer a-t-il vraiment osé lui avouer sa trahison ? Pour l'autre biographe important de Speer, la journaliste britannique Gita Sereny, cette scène serait une pure invention. Le fantasme d'une conclusion idéale à cette relation amicale et toxique qui aura duré 12 ans. Et à la fin de l'histoire, le jeune architecte rompt le pacte avec le diable, sauvant son âme. En vérité, lors de ces derniers mois, Speer, le traître, était déjà largement discrédité dans l'esprit d'Hitler. Ce dernier s'amusa même à humilier son ex-architecte favori en couvrant d'éloges son rival de toujours, Hermann Giesler. Alors, qu'espérait Speer en ce crépusculaire 23 avril 45 ? Un dernier regard ? Ou encore, ivre de son pouvoir politique passé, l'idée qu'Hitler en ferait son successeur ? 7 jours plus tard, il apprend la terrible nouvelle, il raconte dans ses mémoires.
Au soir de ce 1er mai où nous apprîmes la mort de Hitler, je dormis dans une petite pièce du cantonnement de Dönitz. En défaisant ma valise, je découvris l'écrin de cuir rouge contenant le portrait d'Hitler. J'étais à bout de nerfs. Quand je mis la photo sur la table, une crise de larmes me secoua. Ce fut seulement à ce moment-là que se dénouèrent les liens qui me tenaient enchaîné à Hitler. Son charme magique avait fini d'agir. Il ne me restait plus que les images de champs couverts de mort, de villes en ruine, de millions d'hommes et de femmes en deuil, de camps de concentration.
Difficile de percer la vérité d'un individu comme Albert Speer. L'homme qu'il fut avant ses 40 ans, avant la chute du régime et le procès de Nuremberg, l'enfant de la grande bourgeoisie du Bade-Württemberg, l'architecte sans talent, mais diablement opportuniste qui s'est lié d'amitié avec Hitler, l'homme d'influence qui a gravi tous les échelons accédant au ministère le plus important du Reich, toutes les facettes de Speer ont été savamment brouillées au gré d'une mémoire éparpillée, sélective et trompeuse. Après le suicide d'Hitler, il ne sait lui-même plus qui il est, ni à quel saint se vouer. Un jour, il évoque avec le chef des SS, Himmler, la possibilité de négocier secrètement avec les alliés. À un autre, il participe au gouvernement nazi fantoche et éphémère mené par l'amiral Karl Dönitz. La semaine suivante, il accepte de livrer aux forces américaines tous les secrets industriels du Reich, ajoutant ses propres observations sur les raisons de sa chute. Après la capitulation allemande, emprisonné dans un château, une forme de prison dorée où il se promène librement et converse agréablement avec ses geôliers, Speer croit sincèrement qu'il participera à la reconstruction de son pays. Et en septembre 1945, sa surprise ne semble pas feinte quand il apprend qu'il va être jugé à Nuremberg avec 20 autres chefs nazis. Pire, il devra répondre des mêmes chefs d'accusation que crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité.
Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dans la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring.
Lorsque s'ouvre le procès de Nuremberg à l'automne 1945, personne ne porte d'intérêt à la silhouette élégante et polie du docteur Speer. On attend surtout du procès du siècle qu'il dévoile des figures de monstres psychopathes. Alors les yeux sont volontiers rivés sur la figure étrangement affûtée de Göring, a priori le second dans la hiérarchie nazie. L'ogre morphinomane, autrefois bouffi par les excès en tout genre, apparaît assez en forme et plus arrogant que jamais. 9 jours après le début du procès, le tribunal est plongé dans la pénombre et sont alors projetées les images tournées dans les camps de concentration, le vrai tournant de ce procès. Tout le monde scrute les réactions des accusés. Assis au deuxième rang, tout à droite, loin de Göring, Hess et autres Keitel, Speer se fait discret. Il fixe l'écran avec une tristesse infinie. Éprouve-t-il seulement de la compassion pour les victimes dont il découvre l'horrible sort, ou comprend-il à présent qu'il lui faut un miracle pour quitter Nuremberg vivant? Une jeune femme dont l'assistante le remarque. Elle s'appelle Jitta Sereny, juive autrichienne de 24 ans, réfugiée aux États-Unis. Une amie traductrice a obtenu qu'elle assiste au procès. Jitta n'a Dieu que pour l'air fin et intelligent de ce gentleman de 40 ans qu'est Albert Speer, se distinguant indéniablement au sein de la clique de nazis grossiers. Ces deux-là, Albert et Jitta, se retrouveront bien des années plus tard. Jitta deviendra à la fin de sa vie la dernière confidente de Speer, sa biographe, et peut-être la première à mettre au jour la face sombre du charmant et machiavélique docteur Speer. Mais pour l'instant, le charme opère. La fascination teintée d'empathie qu'éprouve la jeune journaliste s'empare déjà de tout le tribunal. Quand au printemps 1946, enfin, Albert Speer monte à la barre pour se défendre.
Will you state your full name, please? Will you repeat this oath after me? I swear by God. The Almighty and Omniscient. That I will speak the pure truth and will withhold and add nothing.
Sa stratégie de défense a été édifiée longuement en cellule, avec l'aide de l'avocat Hans Fleischner, et en concertation avec les autres accusés, ou plutôt, en confrontation avec les vues que Göring essaye d'imposer à tout le groupe. « Il ne faut rien espérer, affirme-t-il, ils sont déjà des hommes morts. Il faut partir en Asie fier et réaffirmer le bien fondé de l'œuvre du Führer. » En vérité, après avoir feint l'insolence devant les juges, Göring essaie quand même piteusement de minimiser ses torts personnels. Quand vient son tour, Speer joue lui la partie bien différemment. Répondant aux questions préparées avec son avocat, il admet d'emblée « Si Hitler avait eu des amis, j'aurais certainement été l'un de ses amis les plus intimes. Ça vous pose un homme. » Il se rappelle alors sa première rencontre avec le Führer en 1933. Speer venait lui présenter son projet de décorum pour le premier congrès du Parti national-socialiste, à Nuremberg, précisément. Il avait imaginé projeter dans le ciel des faisceaux dessinant dans la nuit une cathédrale de lumière. Hitler avait nettoyé son arme tout le long du rendez-vous sans décrocher un regard à Speer. N'empêche que la grande réussite esthétique du congrès de Nuremberg vaut à l'architecte arriviste son premier poste dans les coulisses du pouvoir et lui permet de pénétrer le cercle intime d'Hitler. Celui qui n'était qu'un petit assistant sans envergure devient alors et en 2 ans le courtisan favori d'Hitler et le dépositaire de toute la politique architecturale du Reich. Speer n'est peut-être pas Michel-Ange, mais il est adroit comme personne pour mettre en œuvre des chantiers colossaux avec une efficacité et un sens industriel redoutables. Ça tombe bien, Hitler rêve de faire de Berlin la plus belle capitale du monde. Speer lui dessine alors Germania, une cité antique à l'envergure effarante, et fait tout pour mettre en œuvre ses esquisses qui nécessitent ni plus ni moins que de raser le centre-ville de Berlin. Bon, il se trouve que la guerre met un terme à ses projets pharaoniques. Mais en 1942, Hitler fait de Speer son nouveau ministre de l'armement. Et l'intéressé, improvisé capitaine d'industrie, se rend utile, extrêmement précieux même, en redressant de manière spectaculaire la production des usines allemandes en quelques mois, malgré la pénurie de matières premières et surtout grâce à des milliers de prisonniers réduits en esclavage. Devant les juges de Nuremberg, Speer assume la responsabilité de tous les ordres qu'Hitler a exécutés sans broncher, lui a fait exécuter, et même va plus loin, développant un argumentaire tortueux que même son avocat lui a déconseillé, mais qui lui sauvera la vie. Il le restitue dans ses mémoires.
Dans la vie d'un État, chacun a son propre secteur, dont il est tout naturellement pleinement responsable. Mais au-delà de cette responsabilité limitée, il faut qu'il existe une responsabilité collective. pour les choses essentielles dès que l'on est un des principaux dirigeants. Car qui d'autre que les plus proches collaborateurs du chef de l'État pourrait porter la responsabilité du déroulement des événements ? Même dans un régime autoritaire, cette responsabilité collective des dirigeants doit exister. Il est exclu qu'on puisse, après la catastrophe, échapper à cette responsabilité collective. C'est d'autant plus mon devoir, du fait que le chef du gouvernement s'est soustrait à ses responsabilités devant le peuple allemand et le monde.
En résumé, Speer plaide coupable collectivement, mais pas individuellement. En faisant cet acte de contrition au nom de tout l'appareil d'État nazi, en admettant avoir été complice d'un fou furieux, à avoir été aveuglé par le pouvoir et à avoir avancé avec deux œillères sur la réalité des crimes du régime qu'il servait, Speer se démarque. Sa sincérité et son repentir tranchent avec la ligne de défense des autres accusés. On lui reproche l'emploi de prisonniers dans les usines d'armement et les terribles sévices qu'ils ont subis, il n'y croit pas une seconde. Mais enfin, des choses pareilles ne peuvent pas se produire en Allemagne, ose-t-il. Mais dans le fond, Speer assume avoir été un technocrate obsédé par le rendement et par les chiffres. Corrompu par la machine et aveuglé par le pouvoir, il en a oublié les humains. Certaines réalités lui ont peut-être échappé, c'est ce qu'il affirme, en tout cas devant la justice internationale. Il se permet quand même de rappeler que lui seul s'est opposé à Hitler à la fin, soucieux qu'il prétend être de préserver le peuple allemand de la folie incendiaire de son Führer. Plus subtilement encore, il évoque brièvement, sans vouloir se glorifier, un projet d'attentat qu'il aurait fomenté contre son chef. Au début de l'année 45, alors qu'il savait que la guerre était perdue depuis longtemps, Speer aurait voulu jeter du gaz toxique dans les tuyaux d'aération du Führerbunker. Avant qu'un mur trop haut l'en dissuade. Le numéro 2 du régime n'avait pas d'échelle, ironisera plus tard son rival Hermann Giesler. Sur le cas Speer, le jury international de Nuremberg est divisé. Les soviétiques sont totalement imperméables au charme du gentleman industriel, héros dès la dernière heure et perce à jour le menteur, donc ils veulent sa tête. Mais les Français et les Anglais se laissent attendrir et ils parviennent à convaincre les Américains après de longs débats. Des décennies plus tard, le substitut du procureur américain Robert Kempner s'interroge encore sur ce verdict.
J'ai toujours été d'avis que Speer, en raison de son rôle de technocrate, un rôle que l'on n'avait pas encore vraiment identifié clairement, jouait en réalité un rôle bien plus dangereux que celui d'un petit exécutant. Mais même au sein de l'accusation, lors du procès de Nuremberg, on ne l'a en fait pas perçu aussi clairement. Or là, c'est un principe général de notre justice. Le petit est plus facile à appréhender et à comprendre, y compris dans sa dimension criminelle, qu'un grand, qu'un technocrate, que l'homme qui met les chaînes de production en mouvement.
Le 1er octobre 1946, Albert Speer est condamné à 20 ans de prison. De quoi s'atteler en secret et à l'abri à la plus grande œuvre de sa vie, une cathédrale de mots, ses mémoires. Ou comment enfouir un peu plus profondément encore tout ce qu'il a soigneusement oublié de dire au juge de Nuremberg. How each of us decides, I've never been sure. The part we play, the way we are. Each of us denies any other way in the world. Why each of us must choose, I've never understood. One special friend, one true love. Why each of us must lose everyone else in the world. However unsure, however unwise, day after day, play out our lives, however confused. Pretending to know to the end. This isn't true. This isn't right. This isn't love. This isn't life. This isn't.
alone. Dreams to understand anything at all. Why each of us decides, I've never been sure. The part we take, the way we are. Why each of us denies every other way in the world. This isn't real. This is a lie. This isn't true. This isn't wrong. This isn't love. This isn't love. This isn't real. This is a lie.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui dans la série L'Entourage d'Hitler, Albert Speer.
Affaires Sensibles.
Le P-1127 pourrait donc, techniquement, se poser dans la cour de la prison de Spandau si d'aventure un James Bond entreprenait d'enlever le dernier prisonnier. En effet, il ne reste plus qu'un seul. Après la libération par les alliés devant 400 journalistes de Speer et de von Schirach. Albert Speer, l'homme qui mobilisa l'industrie allemande au service du nazisme, fut condamné à 20 ans de réclusion au procès de Nuremberg. Il s'apprête, très décontracté, à reprendre ses activités d'architecte à Heidelberg.
Fabrice Drouel.
1er octobre 1966, une foule est massée devant la prison de Spandau pour voir sortir le célèbre prisonnier numéro 5. Albert Speer, 61 ans, est libre. Sous les yeux des caméras, il est attendu par sa femme et ses 6 enfants. Dans une première conférence de presse, il affirme vouloir reprendre le train de vie de bon père de famille et d'architecte honnête. Sauf que ni à sa femme, ni à ses enfants, il n'accordera la moindre marque d'affection. Pas plus qu'à l'architecture, à laquelle il renonce assez vite. En vérité, nul avenir ne s'ouvre à lui. La prison a transformé Speer en un être reclus et asocial, hanté par son passé, dernier témoin privilégié de l'épopée la plus sinistre de l'histoire humaine. Et tant qu'à devenir une bête de foire historique, autant en profiter. Dès ses premiers jours de liberté, Speer se prépare longuement à donner une interview fleuve pour le magazine Der Spiegel. Pour celle-ci, il obtient la modique somme de 50 000 Deutschmark, de quoi s'acheter une nouvelle voiture de sport. Le journaliste de Spiegel passe au crible toute l'histoire, revenant sur chaque nœud de la biographie de Speer. A-t-il lu Mein Kampf ? Autrement dit, avait-il conscience de la propagande politique que servait son art ? Était-il pour la guerre ? Dans quelles circonstances est-il retrouvé ministre de l'armement ? Quand a-t-il commencé à remettre en cause les ordres du chef ? Et était-il de mèche avec les comploteurs qui ont voulu assassiner Hitler le 20 juillet 1944, sous la houlette du colonel Klaus von Stauffenberg ? Quelle est la teneur de ces derniers échanges avec le Führer ? Albert Speer répond à tout, prolongeant et affinant le récit déjà déroulé à Nuremberg. L'architecte apolitique et ambitieux, devenu un artiste d'État grisé par le pouvoir. Le ministre zélé et obsédé par les chiffres, qui a tardivement ouvert les yeux sur la réalité du désastre. Le technocrate redevenu humain, qui a tout entrepris pour enrayer la machine destructrice hitlérienne. Puis, subtilement, le journaliste en vient au sujet le plus important, celui qui avait été si peu abordé au moment de l'interrogatoire de Speer à Nuremberg. Que savait-il vraiment sur la Shoah ?
Saviez-vous ce qui s'est passé dans les camps de concentration ?
Je n'en avais qu'une vague idée.
Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer qu'un homme à votre place n'ait pas pu être au courant de cela.
C'est là, bien sûr, la question cruciale. À Nuremberg, j'ai déjà expliqué aux Américains que même s'il était possible de s'approcher de la vérité à l'époque, on n'a pas cherché à la connaître. Il y avait des indices, mais ils n'ont pas été exploités.
C'était quoi comme indice ?
Le Gauleiter de Basse-Silésie, Anke, est venu me voir un jour dans un état d'agitation extrême et m'a dit « N'allez jamais visiter un camp de concentration en Haute-Silésie ».
Il faisait référence à Auschwitz ?
C'était à Auschwitz, mais je l'ignorais à l'époque. Et vu l'agitation de Anke, qui était pourtant un homme dur, je n'ai pu que conclure qu'il se passait là quelque chose qui avait même laissé cet homme sans voix.
Mais vous avez vous-même visité un camp de concentration, Mauthausen ?
Comme je le sais maintenant, il s'agissait sans aucun doute d'une mise en scène. On ne m'a montré que deux baraquements en pierre, aménagés comme un camp modèle. Je n'ai rien vu d'autre.
La défense de Speer sur la Shoah est parfaitement réglée. À vrai dire, l'anecdote de son échange avec le Gauleiter Hank ou sa visite de Mauthausen, comme tous les exemples qu'il donne au cours de son interview, seront bientôt couchés sur des pages tirées à des centaines de milliers d'exemplaires. Pendant 20 ans, Speer a soigneusement préparé ce travail mémoriel. Il a rusé pour contourner l'interdiction qui était faite aux prisonniers de Spandau d'écrire leurs mémoires, faisant passer dans son courrier privé près de 20 000 feuillets qui constitueront bientôt la base des épais volumes de son livre intitulé « Au cœur du Troisième Reich » et du journal de Spandau. Le récipiendaire de ce travail carcéral s'appelle Rudolf Wolters. Il connaît Speer depuis 40 ans. Il a été son subordonné à l'époque du Reich. Pour son ex-patron, il a orchestré tous les contacts avec l'extérieur de la prison, l'a informé du moindre mémoire universitaire en cours de rédaction pouvant inquiéter un tant soit peu son récit, réuni des centaines de documents d'archives, préparé le terrain avec les maisons d'édition. Sauf qu'entre Wolters et Speer, il y a eu de l'eau dans le gaz. Wolters ne veut plus participer à cette entreprise de réhabilitation intéressée et hypocrite. Et de son côté, Speer a tout à craindre de la proximité de cet ancien collaborateur qui sait tout de ses petits secrets. L'ancien nazi s'assure alors du soutien et de l'argent de l'éditeur berlinois Wolf Siedler et s'octroie les services de l'historien Joachim Fest. Celui-ci a déjà rédigé un essai assez plaisant sur l'architecte quelques années plus tôt, ce qui en fait le candidat idéal pour devenir son rédacteur. Il lui faut 3 ans pour mettre en forme les manuscrits de Speer. Au cœur du Troisième Reich, paraît en 1969, c'est un best-seller en Allemagne, bientôt traduit dans 14 langues. Un succès international qui a de quoi enorgueillir Speer, le vaniteux. Comme on l'entend dans cet extrait de la télé suisse.
Est-ce que votre éditeur vient souvent vous voir ?
Pas trop souvent, nous voyons chaque quelques mois pour discuter des problèmes. Naturellement, avec un livre, c'est toujours des problèmes. Maintenant, c'est le problème si on fait un film de ce livre, parce que je pense aussi que le livre a un certain niveau et ce sera dommage que le film sera sous ce niveau.
Au début des années 70, Speer multiplie les conférences et les interviews pour les chaînes de télé allemandes, suisses, belges, britanniques, jusqu'à donner une longue interview dans le magazine Playboy. Si je ne l'ai pas vu, alors c'est que je ne voulais pas le voir. S'arrange-t-il encore après une question embarrassante sur la Shoah ? Dans tous les formats, toutes les langues, Speer impose sa vérité et passionne ses interlocuteurs avec le récit de ses anecdotes dans les coulisses du pouvoir d'Hitler. Sauf que cette exposition médiatique a un prix. Ses anciens amis se détournent de lui, moquent le prédicateur parcourant le pays vêtu d'une robe de bure ou le maître du double saut périlleux, comme ils disent. Et Speer a tout à craindre des racontars sur lui que ses anciens amis nazis, ici ou là, peuvent laisser échapper. On dit qu'il était si proche d'Hitler qu'il ne pouvait rien ignorer de l'antisémitisme viscéral de celui-ci. On dit que lors de la nuit de cristal de novembre 38, quand 400 juifs sont assassinés et 30 000 autres arrêtés, Speer aurait été surtout épaté du nombre de boutiques tenues par des juifs à Berlin. En En novembre 71, un historien canadien a la bonne idée d'aller mettre le nez dans les archives et exhume un événement particulièrement compromettant pour Speer. Le 6 octobre 1943, le ministre de l'armement prononce un discours à Poznan devant les chefs régionaux nazis réunis en congrès, les Gauleiters. Le même jour, l'après-midi, Himmler monte à la tribune et expose ce qui suit.
Je voudrais aussi vous parler très franchement d'un sujet extrêmement important. Entre nous, nous allons l'aborder franchement, mais en public, nous ne devrons jamais en parler. Je voudrais parler de l'évacuation des Juifs, de l'extermination du peuple juif. Nous avions le droit moral, nous avions le devoir envers notre peuple de détruire ce peuple qui voulait nous détruire. Je ne resterai pas là à observer passivement tant que la moindre tache pourrie se développe ou tient bon. Quelle que soit la forme qu'elle emprunte, nous devons ensemble la brûler. De toute façon, nous pouvons dire que nous avons réalisé cette mission des plus difficiles, animée par l'amour pour notre peuple. Et ni notre être, ni notre âme, ni notre caractère n'en ont été atteints.
En découvrant l'article de l'historien canadien, Speer est affolé. Il s'enferme des journées entières aux archives de Koblenz, où se trouvent tous les documents de son ministère pour prouver qu'il n'a jamais entendu les propos d'Himmler. Ce jour de 1943, après son propre discours, il a quitté la conférence. Alors il cherche des témoins directs et les sous-doigts pour qu'ils attestent ses propos et va plus loin encore dans sa défense. Il fait publier un mémo d'Himmler qu'il a retrouvé et qui dit « Souhait de Speer, juif dans les usines d'armement ». Voilà. Non seulement il ignorait tout de la Shoah, mais se faisait hausser le défenseur des vies juives façon Oskar Schindler. Sauf que durant les années 70, les traces prouvant que le bon architecte ne fut pas le nazi si naïf et exemplaire qu'il veut bien prétendre affleurent de toutes parts. Il y a surtout des preuves accablantes de sa culpabilité qui traînent encore dans les archives, alors que Speer était persuadé d'avoir fait le nécessaire pour les effacer. On l'en avait pourtant assuré. Il n'existe plus de version originale des chroniques des activités du bureau central de la réimplantation que rédigeait Rudolf Wolters à la fin des années 30 sous la direction de l'inspecteur général des bâtiments, un certain Albert Speer. Wolters a promis. Il a expurgé toutes les versions du document de la moindre mention des Juifs. Sauf qu'il a menti et qu'au bout d'un long chemin d'amertume, il trahit. Il transmet le document original à un obscur chercheur en histoire qui n'en revient pas de sa découverte. Et que disent ces chroniques originales? Que 75 000 juifs ont été expulsés de leur appartement berlinois au moment des premiers travaux de Germania, et cela sous les ordres et avec le scrupuleux suivi du docteur Speer. C'est donc sur un fil, avec une lourde épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qu'Albert Speer continue tout de même sa drôle d'odyssée médiatique dans l'Europe occidentale. En 1975, après la publication de son deuxième livre, un nouveau raz-de-marée dans les librairies et le voilà sur TF1.
Regrettez-vous d'avoir été l'architecte de Hitler ou pensez-vous que, face à l'histoire, cela valait quand même la peine d'être vécu?
Quelquefois, je pense, voilà, tous les maquettes, tous les plans sont encore là et ils sont maintenant un petit pas de l'histoire d'architecture, même s'ils sont détestés, mais ils sont là. Et moi, j'étais l'architecte de cette période.
Donc finalement, pas de regret?
Non, je ne peux pas dire regret. Ce ne sera pas sincère. Je le regrette avec mon esprit, mais pas avec le cœur.
1981, Albert Speer meurt d'une crise cardiaque après une interview donnée à la BBC. Jusqu'à la fin de sa vie, il aura pu se défendre contre les fantômes du passé et s'est même octroyé le droit d'une dernière passion amoureuse avec une jeune Anglaise. De fait, les premières publications à peu près lucides sur l'architecte d'Hitler ne paraîtront qu'à la fin des années 90. Et encore, ses biographies seront toujours teintées d'indulgence pour cet homme intelligent et cultivé, ce capitaine d'industrie qui présente bien. Et pourtant, dès la fin de la guerre, certains observateurs avaient vu clair dans son jeu. Alors lisons pour conclure l'article de ce journaliste britannique qui écrit le 9 avril 1944 dans le journal The Observer ce qui apparaît comme le portrait le plus juste d'Albert Speer.
Speer se rapproche beaucoup moins que les autres dirigeants d'un modèle typiquement allemand ou typiquement nazi. Il symbolise en effet un type d'homme dont l'importance est toujours plus grande dans les États en guerre. Le technicien pur, l'homme brillant, issu de nulle part, qui n'a pas d'autre but que de faire son chemin dans le monde grâce à ses compétences techniques et à ses qualités d'organisateur. Il est en phase avec son temps. Nous pouvons nous débarrasser d'un Hitler ou d'un Himmler, mais pas d'un Speer. Quel que soit son destin, il restera parmi nous encore longtemps.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Albert Speer, dont nous parlons avec notre invité Johan Chapoutot. Bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, vous êtes l'auteur d'une œuvre importante sur l'histoire culturelle du nazisme. Vous avez publié notamment une somme avec votre collègue Christian Ingrao, Le monde nazi 1919-1945, chez Talendier en 2024, avec Nicolas Patin aussi. Hein. Mm-hmm. Et plus récemment, Les irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir? Ça c'est Gallimard, et c'est une grande question que nous poserons à la fin de cet entretien. Mm-hmm. Alors, vous avez commencé vos recherches sur le nazisme avec des travaux sur les liens qu'entretient le Troisième Reich avec l'Antiquité, même chose pour Mussolini, hein, qui a tourné avec la Rome antique, une espèce de romantisme politique. Alors j'imagine que vous côtoyez donc le personnage d'Albert Speer depuis un certain temps. Quelle idée vous êtes finalement fait de ce personnage, bah, pour le moins trouble?
Alors c'est quelqu'un effectivement que je connais depuis longtemps, puisque de fait dans ma thèse sur le nazisme et l'antiquité, Speer était déjà présent à titre d'architecte. Mmh. C'est quelqu'un qui rentre en contact avec Goebbels dès 1932, hein, qui fait des travaux pour Goebbels à la Gauleitung, c'est-à-dire la direction du parti à Berlin, et qui ensuite rentre en contact avec Hitler dès le 1er mai 1933, puisque Goebbels a demandé à Speer de scénariser cette grande fête du travail national qui est le 1er mai nazi, la manière dont il le recode, avant de casser tous les syndicats le lendemain, le 2 mai. Et c'est lui qui met en scène à Tempelhof cette grande fête nationale. Et Speer, ensuite, je l'ai retrouvé, et d'ailleurs l'article que vous avez cité à la fin de votre récit me rappelle cela, dans mes travaux sur précisément le management et l'économie nazie, dans un livre qui s'appelle Libre d'obéir. Parce que Speer peut apparaître comme cette figure, effectivement, du technicien froid, totalement apolitique, et c'est d'ailleurs comme cela qu'il s'est présenté. Au fond, on a recodé son apolitisme supposé, qu'il a revendiqué en disant qu'il n'était qu'un artiste, en essayant de le faire passer ensuite, ce à quoi il a contribué, comme un simple manager, ce que l'on appelle désormais un manager. Or, Speer était quand même plus que cela. Il faut se souvenir que c'est un homme qui... Alors déjà, le fait de considérer les individus ou les êtres humains comme de simples objets qu'on va manipuler, ce qu'il fait tout le temps, hein, toute sa vie, n'est pas apolitique, premièrement. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui, dès 1931, rentre au parti nazi. Mmh. Il rentre au parti nazi dans des organisations nazies, dans la Motor SS, c'est-à-dire dans les unités motorisées de la SS, puisqu'il possède un véhicule, c'est un grand bourgeois, et donc il a une grosse voiture qu'il met au service du parti, et donc c'est quelqu'un qui, issu d'une longue lignée de bourgeois, d'architectes d'ailleurs, il n'a aucune imagination ce garçon, hein, puisque son grand-père est architecte, son père est architecte.
Et puis c'est pas Michel-Ange non plus. Hein.
Non, ah non, mais c'est un architecte par ailleurs très médiocre.
Alors c'est un arriviste comme tous ceux de la clique d'Hitler, ils sont tous des arrivistes et ils voient le moyen justement d'arriver à avoir du pouvoir. Il est dans cette logique-là, je fais.
Alors,
comme
mais,
les autres.
Mais leur arrivisme qui est, et leur ambition qui est évidemment incontestable est également très politique. Parce que ce sont des gens qui veulent défendre une cause qui est celle de l'Allemagne éternelle, qui est celle de la droite. Hein. Speer, c'est un bourgeois, fils de bourgeois, qui a vu dans le nazisme le vecteur politique ou le véhicule politique idéal pour combattre la gauche et au-delà de la gauche le communisme international, et c'est pour ça qu'il s'est engagé en politique. Et d'ailleurs c'est une ligne qu'il a poursuivie toute sa vie, puisque quand il se met à collaborer avec les Américains, avec l'idée d'ailleurs de faire la paix à l'Ouest pour continuer la guerre à l'Est contre l'URSS, c'était l'ambition d'Himmler, de Denis, de Speer, de Göring également, c'est quelqu'un qui a toujours suivi cette ligne-là, et c'est pour ça qu'il collabore de très bonne grâce avec les Américains, et qu'il est tout surpris d'être inculpé à Nuremberg, parce que pour lui, le combat de sa vie contre la gauche et contre le communisme se poursuit évidemment en contexte de guerre froide dès l'été 45.
Alors, le travail forcé, bon, ça paraît clair. Alors, la Shoah, Est-on capable de prouver aujourd'hui le lien de Speer avec la Shoah et notamment la connaissance de cette horreur?
Speer, en tant que chef de la GBI, c'est-à-dire la Generalbauinspektion pour Berlin, puis en tant que ministre de l'armement du Reich, est en relation quotidienne, et ses bureaux, ses services sont en relation quotidienne avec la SS, plus précisément avec ce qu'on appelle l'Office central de l'économie et de l'administration de la SS, le WVHA, qui lui fournit la main d'œuvre. Et de fait, quand Speer s'est défendu en disant « je ne voulais pas la mort de tant de millions de personnes puisque je voulais les juifs au travail, je les voulais dans les usines », c'est vrai, mais il voulait de la main d'œuvre en tant que fonds d'énergie dans lequel on allait puiser jusqu'à l'épuisement. C'est-à-dire qu'il voulait les faire mourir au travail, ça ne le dérangeait pas. C'est quelqu'un qui a eu un mépris pour autrui et pour la vie d'autrui toute sa vie. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête pour bien comprendre sa participation au crime nazi. Et évidemment qu'il était au courant de la Shoah. C'était, même s'il n'a pas assisté au fameux discours de Poznan d'Himmler, de fait, en étant en contact quotidien avec la SS, et par ailleurs, en ayant des contacts également quotidiens avec Rosenberg, qui est le ministre de l'Est, et tous les Gauleiters, c'est un secret de polichinelle, y compris dans une large partie de la population allemande.
Donc, quand on résume, comme je l'ai fait, avec son air de ne pas y toucher, il est aussi criminel que les autres, vous confirmez?
Mais absolument. Bien. Mais il est même pire que ça, puisque c'est quelqu'un qui a réussi à s'en sortir, comme vous l'avez très bien montré dans votre récit, grâce d'ailleurs à un habitus, à une culture, à des codes sociaux qui sont ceux de la bourgeoisie. Parce que, pour le coup, à Nuremberg, lorsqu'il sauve sa peau, c'est pas un cas individuel, il y en a d'autres qui font ça. Oui. Baldur von Scherach, qui était le chef
jeunesse hitlérienne,
chef de jeunesse hitlérienne, et ensuite Gauleiter de Berlin, de Vienne, et à ce titre, qui a déporté presque 150 000 personnes de Vienne, Baldur von Scherach fait partie du même milieu social que Speer. Lui aussi, il va prendre 20 ans à Nuremberg, parce que lui aussi, il va convaincre les juges, au passage, pas les soviétiques. C'est les Français, les Britanniques et les Américains
comme
qui
Speer.
Achètent le récit de Speer mais et de Baldur von Scherach, mais pas les Soviétiques. Et ils vont connaître la même vie et la même carrière parallèle, puisque après 1966, après leur libération, l'un et l'autre qui disposent de réseaux nationaux et internationaux, qui sont polyglottes, on l'a vu avec Speer, c'est le cas de Baldur von Scherach. Speer avait une gouvernante, le petit Speer avait une gouvernante française à la maison. D'accord. Baldur von Scherach aussi, c'est l'aristocratie de Weimar, etc. Ces gens-là qui ont su remarquablement se vendre en polyglossie après 1966. Et effectivement, tous leurs interviews, qu'ils soient radiophoniques, télévisuels ou pour la presse, étaient adornés à chaque fois de chèques assez substantiels.
France Inter. Affaires sensibles.
Johann Chapoutot, comment expliquer que le dénommé Fritz Saukel, dit le négrier de l'Europe, chargé de faire parvenir de la main-d'œuvre en provenance de toute l'Europe occupée dans les usines d'Albert Speer, lui était condamné à mort et pas son ministre de tutelle?
Bon, ben là, il faut faire une lecture sociologique des choses. On a un Albert Speer qui maîtrise les codes qui sont ceux des magistrats. Alors, pas des magistrats soviétiques, qui sont des militaires et qui ont une idéologie qui les rend assez insensibles à ça. Ouais. Mais très typiquement, on a de la très haute bourgeoisie ou de l'aristocratie française, américaine et britannique qui des gens qui reconnaissent en Speer quelqu'un qui est de leur monde, tout simplement. Son excis corporel, son élégance, la manière dont il s'exprime, sa polyglossie également, le fait qu'il maîtrise plusieurs langues et par ailleurs, son côté très, très habile et très malin, puisque c'est quelqu'un qui va avoir une argumentation qui va être saupoudrée comme ça de petits moments pénitentiels, de petits regrets qui vont donner à croire qu'il s'agit de quelqu'un de bien, alors que c'est quelqu'un qui aura assumé jusqu'au bout les aspects les plus criminels du nazisme. Il faut voir que Speer, par son activité de ministre de l'armement. D'ailleurs, il est arrivé à ce poste-là dans des conditions assez troubles, hein, parce que son prédécesseur, Fritz Todt, qui souhaitait une paix rapide et séparée, et une fin de la guerre rapide avec l'URSS, est mort dans des conditions qui restent non éclaircies à ce jour.
Donc peut-être assassiné.
Voilà.
Pour récupérer la place.
Disons que Speer devait prendre le même avion, Hitler l'a retenu, et puis... l'avion a explosé après le décollage et Speer a été nommé immédiatement ministre de l'armement. Eh bien, à la tête de ce ministère, en très bon manager, en très bon organisateur. Il a su augmenter la production. Alors, on parle de miracle Speer, mais en réalité, c'était des décisions qui dataient de Toth également. Et il se trouve que la production d'armement allemande a largement contribué au fait que les Allemands, enfin les nazis ont pu tenir, Troisième Reich a pu tenir. Mmh. Il faut se souvenir qu'il y a autant de morts militaires allemands entre juillet 44 et mai 45 que pendant 5 ans auparavant. C'est-à-dire que Speer a contribué au fait qu'il y ait 2 500 000 morts de plus dans les rangs de l'armée allemande, sans compter que la résistance à outrance des armées allemandes a permis de perpétuer ce crime de la Shoah et le reste des crimes nazis.
Alors j'en viens à votre dernier livre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, c'est chez Gallimard. On aurait le réflexe de dire, après tout c'est le peuple allemand, souvent on absout les peuples, mais enfin c'est les peuples qui mettent au pouvoir des dictateurs. Mais je crois que c'est pas la cible, c'est autre chose, c'est un autre pan de la population, non, les irresponsables.
Les Allemands n'ont jamais voulu les nazis, en tout cas ils n'ont jamais voulu ce que les nazis leur ont apporté, c'est-à-dire la guerre et le malheur, mais on a tous les indicateurs chiffrés qui nous permettent de montrer que... Alors, déjà, les nazis sont en perte de vitesse électorale à l'automne 1932. Ils sont en train de... Alors, ils ont déjà reculé au niveau national, aux élections au Reichstag, en novembre 32. Et puis, par ailleurs, ils perdent toutes les élections locales. Et on a d'autres indicateurs qui nous montrent qu'à l'hiver ou au printemps 1933, ils font l'objet d'un rejet dans la population allemande. En réalité, ce n'est pas du tout le peuple allemand, ou la démocratie, ou le suffrage universel qui ont porté les nazis au pouvoir. Ils n'ont jamais eu la majorité. Hitler n'a jamais été élu à rien. Il y a eu une décision froide, technique, qui apparaissait, du point de vue de ceux qui l'ont prise, rationnelle et raisonnable, de faire alliance avec l'extrême droite, de mettre les nazis au pouvoir. Les nazis ont dit qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont jamais rien pris, on le leur a donné pour servir des intérêts bien compris, qui étaient ceux de Speer et de sa classe.
Quoi, la classe bourgeoise ?
Oui, c'est-à-dire qu'il s'agissait...
Le capitalisme allemand du moment.
Alors, vous avez des groupes élitaires comme cela. Les différents groupes du capital allemand entre 1930 et 1933 se rallient au nazisme contre le communisme, mais aussi contre la social-démocratie et contre les syndicats, contre la démocratie sociale de Weimar également. Et puis vous avez ensuite, basculant les états-majors militaires, très rapidement en février 1933, puis l'Église catholique en mars 1933, au plus grand bénéfice de ce qui animait quelqu'un comme Speer, qui était la lutte contre la gauche et le communisme depuis toujours. Et vraiment, c'est une des... Avec un égoïsme quintessentiel et sordide, c'est vraiment une des lignes de force de sa biographie, servir son intérêt jusqu'au bout et préserver son confort de vie.
Yoann Chapoutot, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment pour vos éclairages.
Merci.
Au revoir. Affaires sensibles aujourd'hui, Albert Speer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz.